Le projet de l'anthologie s'est imposé assez rapidement. D'une certaine façon, on pourrait même dire qu'il était présent dès le départ, lorsque nous avons publié notre premier ouvrage sur l'état de la question. Évidemment, nous nous étions déjà beaucoup appuyés sur un certain nombre de textes. Par exemple, très présents dès le départ ont été les travaux de Lethan Coy, les travaux d'Otto Peters en Allemagne, les travaux d'un certain nombre de théoriciens anglo-saxons, comme par exemple Tony Bates en Grande-Bretagne, John Daniel au Canada, et puis des Américains comme Charles Wedmeyer, par exemple, spécialiste de la formation à distance. Nous nous étions donc appuyés sur ces travaux et aussi d'ailleurs sur un certain nombre de travaux qui étaient critiques contre les processus d'industrialisation qui semblaient à leurs auteurs gagner l'éducation. Par exemple, un auteur extrêmement important dès le départ a été Ivan Illich. Non pas que Ivan Illich, dans Une société sans école, soit un tenant, un partisan de l'industrialisation, c'est le contraire. C'est un adversaire de la société autoritaire, de l'éducation autoritaire et de l'industrialisation de l'éducation qui lui paraît porter les valeurs de l'autoritarisme éducatif et social. Mais parce que Ivan Illich avait fait des descriptions saisissantes de ce que nous pouvions appeler, nous, les processus de rationalisation et surtout d'idéologisation de l'éducation. Donc, nous nous appuyions à l'époque, dès le départ, sur un certain nombre de travaux que nous lisions, que nous connaissions bien. Mais ces travaux, nous ne les exploitions pas de façon systématique. Par exemple, nous nous servions d'Ivan Illich pour comprendre l'ensemble des mécanismes idéologiques présidant à la rationalisation de l'éducation, mais nous n'avions pas resitué Ivan Illich dans une tradition anti-industriel qui remontait à très longtemps aux États-Unis. Je peux prendre un autre exemple. Nous nous servions beaucoup de Lethan Coy, la révolution de l'enseignement, l'industrie de l'enseignement, mais nous ne faisions pas le lien systématique entre ce que Lethan Coy disait et ce que, un peu avant lui, quelqu'un comme Burroughs Skinner disait. Nous comprenions bien que Lethan Coy citait Skinner, que Skinner préparait les travaux de Lethan Coy, mais nous n'avions pas réfléchi au lien entre ces auteurs. Et le but de l'anthologie, ça a été au départ d'essayer de reconstituer le fil d'Ariane en quelque sorte, qui depuis les premiers travaux, inspiré très directement par le taylorisme. Jusqu'à aujourd'hui, des travaux par exemple marqués par ce qu'on appelle le capitalisme académique ou le capitalisme universitaire, eh bien, le lien qui unissait ces différents travaux. Donc, à l'origine de l'anthologie, une réflexion sur le fil, et évidemment, comme l'implique cette réflexion sur le fil, une réflexion sur les périodes. Nous avons donc dégagé un certain nombre de grandes périodes, de l'industrialisation triomphante à l'industrialisation critiquée, en passant par l'industrialisation analysée et l'industrialisation éducative, gagnant d'autres secteurs de l'organisation sociale et en particulier le monde de la finance, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de faire en sorte que ce travail soit commenté, analysé et mis en perspective. Nous avons donc réservé plus de place aux commentaires qu'à l'anthologie elle-même, qu'aux textes figurant dans l'anthologie. D'où le nombre relativement réduit d'auteurs évoqués. Il n'y en a qu'une vingtaine, car nous voulions pouvoir analyser ces auteurs, leurs contributions, en manifestant à la fois ce qui les unissait à leurs prédécesseurs, ce qui en faisait des anticipateurs de ce qui allait suivre, mais aussi en resituant leurs perspectives dans les préoccupations du moment. Je prends un exemple. Les travaux de Skinner sur la révolution scientifique de l'enseignement sont des travaux dans lesquels le grand psychologue, de l'université Harvard cherchent à défendre l'idée de machines à enseigner. Il n'est pas le premier à le faire. Les machines à enseigner existent depuis 1830. Mais il est le dernier à le faire sur une base mécanique et il anticipe ce qui va se faire ensuite avec l'informatique, la télématique et le numérique aujourd'hui. Eh bien, on ne comprend rien à la perspective industrielle développée par Skinner si on ne la resitue pas dans le contexte géopolitique des années 1940-1950 aux États-Unis et qui est celui de la guerre froide. Lorsque Skinner dit qu'il faut que la nation américaine augmente le niveau éducatif des jeunes élèves, il le dit parce que en face, il y a des soviétiques qui, eux, ont mis l'accent sur une éducation automatisée, notamment dans la suite des travaux de Pavlov, et qui prétendent, par le développement de l'infrastructure scientifique et industrielle, damer le pion aux États-Unis, ce qu'ils font d'ailleurs effectivement lorsqu'ils lancent le Sputnik. Le Sputnik, c'est-à-dire ce satellite qui fonctionne au-dessus de la tête, qui tourne au-dessus de la tête des Américains et qui les menace très directement, a été incontestablement un grand allié de Skinner et de la perspective industrielle états-unienne. À chaque fois, pour chacun des 20 et un peu plus auteurs que nous avons analysés, nous nous sommes efforcés de procéder à cette remise en perspective. Alors, la création du CIF dans les années 1990, au début des années 1990, la création du CIF a été motivée par trois grands facteurs. Un facteur politique, un facteur scientifique, c'est par lui que je commencerai, et je dirais un facteur pratique. Alors, le facteur scientifique. Nous étions un certain nombre de collègues, Elisabeth Fiché, qui a créé avec moi le CIF, mais aussi Geneviève Jacquinot, à laquelle j'avais fait appel, et puis d'autres. Nous étions un certain nombre de collègues à constater une grave pénurie, une grave lacune dans le domaine des recherches sur l'éducation. Cette lacune était celle qui concernait les questions d'industrialisation. Les psychologues, les pédagogues, les technologues de l'éducation faisaient comme si aucun phénomène d'industrialisation n'avait gagné l'éducation durant au moins les 40, 50, pour pas dire plus, années qui nous précédaient. C'était un peu comme si un sociologue de la culture s'était intéressé aux modalités d'accès à la culture des gens de tous les jours, sans partir du constat que la radio, la télévision, l'édition, la presse, le monde musical étaient industrialisés. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de phénomènes de standardisation, de normalisation, de rationalisation qui ne pouvaient pas ne pas avoir d'influence sur les pratiques elles-mêmes.
Did you see any kangaroos?
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 Donc, nous sommes partis de cette idée qu'il fallait réinscrire ou inscrire la question industrielle au cœur des travaux d'approche sur les mutations de l'éducation. Ça n'a pas été sans mal, parce qu'un certain nombre de pédagogues et de psychologues ont évidemment contesté l'idée que l'éducation puisse, comme la culture en général, être industrialisée. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le deuxième facteur, c'est un facteur politique. Et là, c'est l'inverse. Autant le monde de la recherche était réticent à l'idée de réfléchir aux questions d'industrialisation de et dans la formation, autant le monde politique, lui, était très attiré très attiré par la perspective industrielle. Et on voit bien évidemment les raisons, en tout cas un certain nombre de raisons, de cette attirance du monde politique pour les questions d'industrie éducative. La première, c'était évidemment que les décideurs pensaient que l'introduction de systèmes techniques allait permettre de réaliser des économies, ce qu'on appelle la substitution du capital au travail. À la place des profs, on met des machines. À la place des secrétaires ou des gestionnaires, on met des dispositifs techniques, des réseaux. Mais il y avait aussi une autre raison que nous avons découvert petit à petit et que nous nous sommes efforcés de mettre en valeur, qui est le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'industrialisation de l'éducation était un peu synonyme de sa démocratisation. La massification de l'éducation passait par l'introduction de méthodes industrielles, d'outils industriels, et permettait du même coup d'espérer atteindre une forme de démocratisation. Là aussi, nous avons eu beaucoup de mal par rapport aux politiques, parce que nous expliquions aux décideurs que l'introduction de dispositifs techniques ou de méthodes industrielles pouvait certes permettre de réaliser des gains de productivité, pour employer un mot emprunté à la terminologie industrielle, dans certains secteurs, mais qu'en réalité, ça coûtait globalement plus cher. Et puis, un troisième facteur qui était un facteur pratique. La plupart de ceux qui ont fait partie du CIF et qui en font encore partie étaient des collègues désireux de favoriser les transformations de l'éducation et des transformations dans un sens progressiste. Or, il nous apparaissait que, par exemple, le recours aux dispositifs techniques, au départ, c'était simplement la petite informatique ou la très grosse informatique, puis ça a été l'audiovisuel, puis nous avons réfléchi à la télématique, nous avons réfléchi aux vidéodisques, aux satellites utilisés pour acheminer à grande distance des cours, puis nous avons réfléchi au réseau numérique et à tous ces dispositifs que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, il nous paraissait que l'utilisation de ces outils, de ces moyens, de ces systèmes permettant de favoriser un plus grand accès aux ressources, une plus grande fluidité dans la gestion des modes d'enseignement, il nous paraissait que ces moyens ne pouvaient pas être utilisés comme s'ils n'avaient pas d'effet structurant sur les modes de fonctionnement des manières d'enseigner et d'apprendre. Et ces trois, la conjonction de ces trois facteurs est à l'origine de la création du CIF. Et ce que je viens de dire explique peut-être qu'il était indispensable que dans cette approche à la fois scientifique, politique et pratique, il était indispensable que plusieurs disciplines se mettent ensemble, que nous conjuguions les efforts de plusieurs disciplines. Et c'est ainsi que, très rapidement, nous avons sollicité un certain nombre de collègues dans les domaines, bien sûr, des sciences de l'information et de la communication, la discipline des fondateurs. Encore faut-il d'ailleurs préciser que dans cette discipline, il y avait des linguistes, il y avait plutôt des spécialistes des industries culturelles, il y avait plutôt des psychologues ou des sociologues, mais enfin, ils relevaient tous des sciences de l'information et de la communication, aussi bien évidemment des collègues de sciences de l'éducation, et on peut dire qu'à certains égards, la parité entre les deux disciplines a été de mise, mais aussi des collègues historiens, des collègues économistes et des collègues de gestion. Nous avons même eu épisodiquement des collègues travaillant dans des domaines de la philosophie, par exemple, de l'éducation. Et cette conjonction des facteurs et des disciplines a rendu possible ce travail de plus de 30 ans ou de près de 30 ans qu'a constitué, qu'a apporté le séminaire Industrialisation de la formation.